savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est une nouvelle de dernière heure qui est tombée là dans les dernières minutes. Il y aurait eu un grave accident. Tout ça se déroulerait au stade olympique. Un travailleur qui serait tombé dans une conduite d'aération, ni plus ni moins, serait dans un grave état. Là. Dans un état, là, on dit, entre la vie et la mort. Là. Puis quand c'est une conduite d'aération, c'est pas clair. Hein? On est juste au pied du mât du stade. Et là, ben vers midi 20, on dit, c'est, tu sais, quand tu chutes, conduite d'aération, ça doit être vertical parce qu'on parle d'une chute de quelque chose comme une trentaine de pieds là-dedans, dans lequel il a fallu là, aller le chercher avec des pompiers spécialisés dans des sauvetages, dans des espaces clos. Là. On se comprend que ça, c'est... Faut que tu descendes.
Je peux même pas y penser. Faut que je pense à d'autres choses.
Oui, claustrophobe un peu, c'est bord.
Hey, tomber dans un tunnel vertical où tu étais enfermé, là.
Ouais, c'est comme tu tombes dans un puits, là, ce qui est souvent l'espèce d'horreur ultime à tout le monde. Là.
Mettons que t'as mal en plus, là, que tu t'es cassé des membres en descendant, que tu t'es coincé là dans le fond.
Ou que t'es tout simplement inconscient, comme on peut deviner que c'est le cas en ce moment.
Ça dépend. Parce qu'on sait pas. Ça dépend si tu te cognes pas la. Si t'arrives, si tu tombes vertical, tu te cognes pas la tête, là, tu peux te briser des membres inférieurs. Puis...
Ouais, c'est vraiment histoire d'horreur là, survenue à midi 20. Toutes nos pensées avec le travailleur, bien évidemment, là, c'est l'histoire qui donne froid dans le dos parce que là, il y a très peu de détails pour l'instant sur les circonstances de comment ça s'est passé.
Dans ces cas-là, ils gèlent toute la scène. La CNESST arrive, les enquêteurs spécialisés en accidents de travail.
Oui, exactement. Là, ils sont en train, d'ailleurs, la CNESST a été avertie, sont en plein déplacement pour se rendre sur place. Donc, on ignore aussi là, qu'est-ce que le travailleur faisait là, à ce moment-là. C'était quoi le travail exact? Mais aussi, chanceux d'avoir été repéré. Là. Tu tombes dans un trou, une trentaine
tout
de
seul?
Pieds, tout seul. Il n'y a personne qui le sait.
Arrête.
Voilà, bon. C'est que histoire, ça donne froid dans le dos de Mario, puis à moi aussi.
Mais coincé de même, là.
En espérant que le travailleur, bien évidemment, s'en sorte. Plus de détails plus tard, assurément, sur cette histoire-là.
Tout savoir en 24 minutes.
Sinon, mais ce qui a fait pas mal jaser depuis le retour de la fin de semaine, c'est le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qu'il a tenu dimanche à l'occasion d'un sommet, là, Conseil national du Parti québécois, qui portait officiellement sur l'habitation à Drummondville, mais qui a fini par devenir vraiment un vibrant plaidoyer pour un futur référendum, la survie du Québec en dehors du Canada. C'était tout un discours que tenu Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était... qui a fait réagir pas mal parce que ça a brassé, il a jeté les gants, littéralement.
Il garde sa capacité, disons, à occuper le centre de la scène politique. Ça, c'est fait. Porte un jugement sévère sur le Canada. Trop sévère. Je dois avouer que moi, je suis rendu pas mal sévère aussi là, sur la trajectoire que prend le Canada, que je ne comprends plus, bien honnêtement, sur le poids du Québec dans le Canada qui fond comme neige au soleil. Pourquoi? Parce que l'immigration à Vancouver, à Toronto, c'est unique au monde. Là. C'est tellement fou, tellement pété, tellement en dehors de toute normalité que, je veux dire, la population du Canada augmente à un rythme que le Québec ne suit pas. Ce qui fait que le Québec, mais je sais pas si les gens réalisent à quel point ça diminue vite. Mettons, on était 25% du Canada. Là, en 20-30 ans, on est devenu 24. Puis après ça, en 20-30 ans, on est devenu 23. Tu sais, on baisse tranquillement. Là, parce que justement, parce qu'il y a plus d'immigration ailleurs. Mais de 23 à 22, là, on est 22.0. Le dernier recensement, le flush, 22.0. Mais ça s'est fait de 23 à 22, ça s'est fait en quelques années à peine, là,
oui.
6, 7 ans. 5. Et là, on dit que de 22 à 21, au rythme où ça va se faire en quelques années, là, en 2028, 2029, 2030. Là, on baisse de 0.1, 0.2 par année. Là, fait que sur 6, 7, 8 ans, un autre point. Donc, à ce rythme-là, c'est-à-dire, dans quelques décennies, le Québec va représenter moins de 20% de la population du Canada. Alors, la lecture que fait Paul Saint-Pierre Plamondon dans l'ensemble de la place du français, de la place du Québec dans le Canada, je la partage passablement. Ce dont je suis moins sûr, c'est que là, lui, il dit, écoute, là, le référendum, on est parti, on est rendu là. Le référendum, c'est une certitude qui va avoir lieu dans les prochaines années. Ben là, ça, c'est comme dire que c'est une certitude que le PQ va être élu.
Ouais, mettre la charrue avant les bœufs un peu là-dessus. Là.
Ben là, je veux dire, je veux rien enlever au Parti québécois qui performe bien dans les sondages, mais là, on est à 2 ans et demi des élections. Je veux dire, j'ai déjà vu des partis être d'avance dans les sondages 6 mois avant les élections, puis perdre les élections. Tu sais, on est loin. Puis là, est-ce que le PQ est devenu une machine de guerre, là? T'sais, est-ce qu'ils ont, mettons, présentement une cinquantaine de candidats vedettes, dont 30 qui formeraient un conseil des ministres? Est-ce que c'est... Wow, on est loin, loin, loin de ça. Donc, il y a un bout où... puis après ça, il dit, ouais, puis c'est notre dernière chance, là, ça aussi. OK, après moi le déluge, si nous on réussit pas, personne ne va réussir après. Fait que je l'interprète, je pense pas, soit qu'il dit, soit qu'il l'a échappé, là, qui, je veux dire, qui est
il
comme,
s'est emporté,
il s'est emporté,
sur le coup,
il s'est emporté dans l'enthousiasme des militants. Moi, je pense pas. Parce qu'il n'a pas l'air d'un gars si émotif. Moi, je pense qu'il a surtout voulu brasser la cage. C'est la souveraineté. L'aiguille du PQ a monté là, de 10 % il y a un an et demi. Il était à 10 % des sondages. Ils ont monté à 34 dans le dernier. Mais l'aiguille de la souveraineté bouge à peu près pas. Et je pense que c'est ça qu'il veut secouer. Il veut secouer une espèce d'apathie. Il veut faire monter l'appui à la souveraineté. Mais, tu sais... Je suis moins sûr. T'sais, d'avoir l'air d'être sûr de gagner la prochaine élection, là, ça me paraît un pari risqué. Là, parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'air de se penser trop sûr de, du gars qui se pense trop sûr de gagner pour que les appuis se mettent à descendre.
Ouais, en même temps, l'émotivité, le coup justement là, d'y aller avec cœur comme ça, ça va peut-être brasser des gens, peut-être intéressés aussi, plus proches à la question de la souveraineté.
Mais ça va galvaniser les troupes, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que les militants du PQ qui sortent de ce congrès, Là, ils portent plus à terre. Là. Ils sont sur le sentier de la guerre, plus confiants que jamais.
Puis il y en a qui sont vraiment. Tu sais, c'est comme quand le Canadien tout d'un coup fait une série, puis ça fait des années, puis ça a déjà été glorieux, puis là, ça
c'est
fait
comme
longtemps.
Ça le revient. Ouais. L'autre affaire, c'est qu'ils ont dû clarifier leur position sur le troisième lien. Et là, finalement, c'est clair, il n'y a pas d'auto. Dans aucune circonstance, dans aucun scénario, aucune circonstance, c'est un troisième lien sans auto. Moi, personnellement, je pense que ça veut dire pas de troisième lien. Je peux pas croire que tu vas creuser un tunnel juste pour passer du transport en commun. Le coût de construction d'un tunnel pour... à mon avis, si tu dépenses ces sommes-là, tu vas passer une voie de circulation, tu vas passer des autos.
Ouais, tu mets juste des transports en commun qui sont extrêmement déficitaires. Malheureusement, là, rien contre des transports en commun, au contraire.
Mais qui sont déjà déficitaires ordinaires. En plus, si tu mets un tunnel de 4 millions, t'imagines-tu comment l'opération va être déficitaire? Pour 100 ans, pour 200 ans, ça va être déficitaire.
Ah oui, puis ça, c'est s'il n'y a pas de dépassement de coûts sur le plus gros tunnel du monde.
Mais là, ça
monde.
Serait plus le plus gros. Ça serait un petit tunnel.
Mais là, on le veut plus d'abord.
Mais là, si on passe juste un petit tramway, c'est un petit tunnel.
Actualité.
Sinon, durant la fin de semaine, ça a brassé aussi au niveau des négociations avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, qui a refusé la nouvelle convention collective à 61 % quand même, là, pas si serré que ça dans un vote comme ça, alors qu'on déplore là, du côté des infirmières, particulièrement le flou qui demeure autour de la flexibilité qui est demandée de la part du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Parce que on se comprend. C'est comme un des mots d'ordre de la réforme de l'Agence Santé Québec. C'est d'être capable d'être plus flexible, de demander plus de flexibilité. Mais
Pour amener le personnel là où sont les besoins, pour éviter de fermer des départements ou des urgences, pour pouvoir déplacer du personnel aux besoins. Les syndicats ont parti une campagne de peur que là, on allait prendre une infirmière en néonatologie, puis on allait l'envoyer aux soins intensifs, les envoyer dans des départements qu'ils connaissent pas, mettre la santé du public en danger.
Mais pas juste des départements, aussi...
Dans des îles d'autres établissements. Là.
D'autres établissements, là, on pourrait parler, le rayon, par exemple, la région de Montréal, c'est un rayon de 25 km en région ailleurs. C'est comme 35 km, mais 35 km, c'est... D'un coup, t'es transféré, t'as ta maison, une place, faut que t'ailles porter la petite à la garderie, une autre. C'est ça qui est déploré là, du côté de la FIC.
Mais de l'autre côté, ils avaient obtenu d'autres gains pour ça, parce que là, on comprend que le comité de négociation, les dirigeants syndicaux avaient accepté l'entente.
Oui.
Là, c'est les membres qui la rejettent. Là, on dit du côté de Mme Bouchard, la présidente, ah ben là, je comprends, les membres, la mobilité, ils en veulent pas, ben, on retourne négocier. Ben, on retourne négocier quoi? Là? Qui retourne négocier quoi? Le gouvernement se reçoit à la table avec quelle intention? C'était réglé, c'était signé. Moi, si je suis le gouvernement, écoute, ils sont chanceux de pas m'avoir à la table. Moi, si c'était le gouvernement, je dirais, bon, mais les augmentations, tout ça, il n'y a plus rien, là. Je veux dire, on laisse courir, c'est fini. Faites des grèves, faites ce que vous voulez. C'est fini. L'entente était sur la table. C'est comme la Sûreté du Québec, là, qui ont refusé le 21%.
Ouais, ça.
Mais
ouais.
Je leur dirais, ben là, c'est plate, là. C'était sur la table, ça y est plus. Parce que là, les gens prennent pour acquis que si tu refuses une entente, c'est devenu trop facile. Tes négociateurs votent quelque chose. Là, les membres se disent, ben, on va dire non à ça. On va obtenir peut-être un petit peu plus, tu sais.
Oui.
Il va falloir qu'un jour, quelqu'un obtienne moins. Oui. Que le fait d'avoir refusé l'entente, tu dis, oh, Colin, on a laissé ce qu'il y avait sur la table, puis on a eu moins, pour faire penser, pour que dans les votes futurs, au moins les gens fassent la bonne réflexion. OK, on a ça sur la table. Parce que si tu dis, je le prends ou je le prends pas, Mais que je le prends pas, c'est « Ah, je vais avoir plus ». Mais là, tu le prends jamais. Tu dis « Tu votes toujours non, je vais voter...
Ouais, »
si tu me dis que je vais avoir plus, je vais voter non à toutes les ententes. Fait qu'il faut qu'un jour, là, dans l'histoire syndicale du Québec, qu'il soit inscrit une occasion. Puis là, on a deux, là. Mais là, la FIC puis la Sûreté du Québec. Inscrit une ou des occasions où, tabarouette, au vote, là, les membres ont refusé l'entente que les dirigeants syndicaux avaient négociée. Puis l'entente est jamais revenue. Les augmentations de salaire prévues, là, ils sont jamais revenus.
C'est vrai que ça sonne plus comme des négociations. Ouais. C'est plus comme on présente quelque chose, on dit non, on retourne. On présente quelque chose, on dit non, on retourne.
C'est un élastique que tu tires toujours du même bord. Faut qu'à un moment donné, l'élastique, il pète. Fait que là, à l'avenir, toutes les assemblées de syndiqués futurs, ils vont se dire, ouais, l'élastique, mais tu viens-tu que il y a 5 ans, il y a 8 ans, l'élastique, il avait pété. Mais là, l'élastique a jamais pété. Le gouvernement, comme c'est notre argent, le gouvernement, oh, on va rajouter un petit peu. J'ai hâte de voir ce que va être la suite dans ce cas-ci.
Tout savoir en 24 minutes.
Aujourd'hui, le procès en diffamation intenté par la Sûreté du Québec à l'endroit du reportage de l'émission Enquête se poursuivait. Là, je rappelle un peu les faits. Reportage choc de l'émission de Radio-Canada Enquête en 2015, dans lequel la journaliste dans cette histoire-là allait donner, là, Mme Josée Dupuis, la voix à toutes sortes de femmes autochtones de Val-d'Or en Abitibi qui disaient avoir été là, victimes de violences physiques, violences sexuelles de la part des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient dans le coin à ce moment-là. Et ben il y a toutes sortes de doutes qui sont soulevés en termes du procès. Là. Les membres de la Sûreté du Québec poursuivent pour 3 millions de dollars en diffamation en disant que c'est pas complètement exact là, ce qui a été dit dans ce reportage-là. Et aujourd'hui, témoignage assez intéressant et important. Merci. Là. Un expert en journalisme, M. Marc-François Bernier de l'Université d'Ottawa, qui a rendu...
C'est un prof de journalisme.
Ouais, prof de journalisme qui a rendu quand même un rapport de 90 pages dans lequel, mais lui, dit ne vraiment pas être convaincu que ce reportage-là a été fait dans les règles de l'art, là, dans les règles donc de la déontologie journalistique. Il explique, entre autres, mais que la journaliste a donné la parole, oui, à toutes sortes de femmes autochtones, sans jamais faire de contre-vérification sur les agressions, ouais, par exemple, de nature sexuelle.
Les cas plus graves, c'est une femme qui se contredit elle-même, qui raconte une affaire après ça à la journaliste, là, pas se contredit à une tierce, ce que la journaliste obtient. Elle obtient des déclarations contradictoires.
Oui, deux témoignages différents.
C'est ça. Elle en choisit une qui va dans le sens là, de son reportage, de dire c'était écœurant, la police, tout ça. Puis elle vérifie pas les faits. Elle vérifie pas. OK, mais là, j'ai une personne qui me dit deux choses, pas nécessairement complètement contradictoires, mais clairement différentes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut que j'aille vérifier. Non, tu prends la version qui rentre dans ton histoire. Et je pense que c'est un peu ce que Bernier dit. C'est comme il laisse entendre que... Tu sais, il parle entre autres du titre, là. Tu sais, qu'on a fait un titre accrocheur. Comme si tu pars d'un titre, tu pars d'une intention, ouais, de faire un scandale.
Parce que le titre, c'était « Abus de la SQ, des femmes brisent le silence ».
C'est ça. Fait que tu pars avec le titre, puis après ça, ben tu rentres les ingrédients qui alimentent ton affaire, plutôt qu'à l'inverse, là, partir des faits. Puis remonter, bâtir un salage solide de faits, puis après ça, arriver à une conclusion.
Oui, puis il arrive même à dire qu'il y a beaucoup d'allégations qui étaient amenées dans le reportage, qui dataient d'il y a quelques années. Là. C'était des femmes qui venaient raconter une histoire qu'elles avaient vécue il y a 2, 3, 4, 5 ans.
Et qui dataient de la vieille police municipale de Val-d'Or.
Bien, c'est ça, c'était même pas la Sûreté du Québec qui était là à ce moment-là. Donc, c'est des abuseurs dans cette question-là.
C'est des gens qui étaient retraités de toute façon d'un corps de police qui n'existe plus.
Exactement. Donc, c'est toutes sortes de questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc, je rappelle, la Sûreté du Québec, c'est eux veulent 3 millions de dommages pour diffamation autour de ça, en disant qu'ils ont vraiment vécu une pression sociale là, de la part de la population, ni plus ni moins, là, après la publication du reportage, comme ils se sont fait traiter de tous les noms autour de ça. Bref, témoignage intéressant. Le procès n'est pas fini, mais quand même, ça lève le voile là, sur qu'est-ce qu'en pensent certains experts là, sur différents reportages. Là, on le sait à l'interne dans les médias, nous, pour travailler là-dedans, on le sait qu'il y a des avocats qui vérifient, qu'il y a toutes sortes de personnes autour là, de la construction d'un reportage, qui font des vérifications.
Ouais, mais les médias privés, tu sais, Radio-Canada a été condamné quand même plusieurs fois, puis c'est toujours bizarre quand Radio-Canada est condamné, tu sais, c'est les contribuables qui payent, là.
C'est vrai que théoriquement, oui.
Ben hein. Oui.
Bon, on verra ce qui arrivera.
Non, mais c'est pas qu'il, tu sais, la journaliste, elle doit, tu sais, Madame Dupuis, elle se défend, puis elle, c'est sa carrière, puis c'est sa réputation. Je dis pas qu'ils prennent pas ça au sérieux, puis bon, les gens à Radio-Canada sont professionnels, mais il reste que, Moi, j'avais suivi un procès là, où ils avaient payé, ils avaient fait un reportage complètement biaisé, unidimensionnel, avaient même pas, tu sais, leur défense avait été pitoyable, la personne avait obtenu de l'argent, mais tu sais, c'est contribuables qui payent.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Une autre histoire, Mario, de voyage dans le sud qui tourne complètement au cauchemar pour une Québécoise. Là, après qu'on ait eu toutes sortes là, de témoignages, on s'en souviendra, là, des gens qui sont allés à Cancun, des gens qui sont allés en République dominicaine.
Il y avait eu beaucoup de cas en République dominicaine ces derniers temps. Là.
Beaucoup de cas là, de gens qui disent s'être fait droguer à leur insu dans leur verre.
Mais cette fois-ci, cette femme de la Beauce, c'est au Mexique.
Ouais, exactement. Elle qui logeait là, dans un complexe 5 étoiles, le Planet Hollywood Cancun, le 8 décembre dernier. Cynthia Ford, qui était d'ailleurs au micro de notre collègue Sophie Durocher plus tôt aujourd'hui pour parler de son histoire, là, j'allais dire mes aventures, mais vraiment le voyage d'horreur là, qu'elle a subi. Elle est sortie pour ses 45 ans dans un bar, sort avec des amis et a dit là, s'être fait droguer dans son verre, disparaît complètement de la carte, rentre comme dans une porte quelque part. Elle ne se souvient de rien. Quand on la retrouve 2 heures plus tard, elle a le visage complètement tuméfié. Là. C'est fait vraiment le ouais, frapper
la photo
sévèrement.
Est à la une du journal ce matin. On la voit présentement. C'est quelque chose. Là.
Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis en plus, ben, elle se sent droguée. Là, on se comprend de la difficulté à interagir à ce moment-là. Il se rend compte ben, qu'elle a été agressée sexuellement. Ses sous-vêtements souillés à l'envers, remis sur elle. Elle a des douleurs. Bref. Elle essaie d'avoir un soutien à l'hôpital, un soutien de la police. Et là, c'est un peu le même scénario qui se répète, là, le modus operandi qu'on a vu dans d'autres histoires du genre. L'hôtel qui collabore pas vraiment.
Mais l'hôtel qui collabore pas, elle a raconté à Sophie que quand elle a appelé la police, l'hôtel n'a pas permis, mais ça, je veux dire, ça fait pic-pic, là, tu dis, oui. L'hôtel n'a pas permis aux policiers, elle dit, c'est un endroit privé, tu n'as pas permis aux policiers d'aller enquêter ou d'aller la rencontrer.
Oui, et là, disent qu'il ben, y a
l'hôtel n'a pas laissé circuler les policiers sur leur prémisse, là, sur leur terrain.
Exactement, puis là, ben...
Les policiers, semble-t-il, ont respecté ce vœu-là.
Oui, dit qu'à l'hôpital, les policiers sont pas plus venus prendre sa déclaration à ce moment-là, donc elle a essayé de passer par la Sûreté du Québec, revenue ici, mais eux n'ont pas juridiction là-bas, peuvent pas intervenir du tout. Donc, c'est une autre histoire, malheureusement, qui va sans doute rester lettre morte, mais...
Mais moi, je pense qu'il va y avoir une pression à mettre là, sur les voyagistes. Je sais que c'est pas de leur faute, puis ils veulent pas ça. Mais il y a des gens qui vendent des voyages. Là. Ils sont c'est pas les grossistes en voyage au Québec, au Canada, sont une dizaine. Voyage Air Transat, Voyage Air Canada, Voyage... C'est pas que eux, mais eux, minimalement, refassent, mettons, à veille de la saison prochaine, refassent le tour des hôtels en disant « Nos clients sont inquiets. » On a beaucoup de plaintes.
On peut savoir votre collaboration, gage de transparence.
Et quand même que l'association des grossistes en voyage soit assez nerveux, qui appelle le gouvernement fédéral, puis qui disent là des pays comme la République dominicaine, le Mexique, faudrait que parce que ça les doigts aux mauvaises places, là, hein, les délégations canadiennes, les ambassades canadiennes, puis les services extérieurs canadiens, eux pourraient mettre une pression, là, dire là, nous, on a beaucoup de plaintes, puis parce que c'est sûr que si la police dans des zones touristiques sait que le gouvernement du Canada est de mauvaise humeur, puis les surveille, puis enquête sur leurs enquêtes, ils aimeront pas ça. Là. Eux autres veulent garder leur industrie touristique, c'est de l'argent qui rentre dans le pays. Mais il va falloir qu'il se... Il n'y a pas de solution, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose minimalement pour rehausser le niveau de sécurité des voyageurs qui vont dans ces zones-là. T'sais, ensemble, les Québécois, on laisse plusieurs millions par année dans le sud. Là, fait qu'on on mérite qu'il nous arrive pas des affaires comme ça.
Ouais, exactement. La pression, elle doit arriver, puis elle doit arriver vite, parce que sinon, on va en avoir d'autres là, de ces histoires-là, malheureusement.
Économie.
Ça avait déjà attiré mon attention, mais là, c'est diffusé un peu partout dans les médias, Mario. Produit au Costco, qui est vendu, puis qui est de plus en plus populaire avec tout ce qui se voit aux nouvelles, justement. Hein? Des guerres, des catastrophes naturelles, des pandémies, amenez-en des problèmes.
On n'est jamais trop prudent.
Et c'est pour ça que Costco, désormais, vend des kits de survie. Mais pas flashlight, une tente, puis non, de la survie alimentaire. Des énormes sets de produits qui sont asséchés, si on veut, là, des produits qui peuvent se garder déshydratés pendant des années et des années. On dit 25 ans minimum, puis c'est des palettes, là, si vous en voulez, énormes, là.
Pour celui de 14 jours, c'est 259,99.
Ah, c'est pas cher.
Mais vous pouvez, mais ça peut monter là, si tu veux avoir ton produit complet là pour 5400 rations complètes, tu peux payer
5400 rations, ça veut dire quoi? C'est une coupe de c'est un an ça?
Ben ça tu peux tenir quasiment des années avec tout ça là, parce que là c'est 432 portions de pâte Alfredo, 432 portions de thon macaroni au fromage, puis là de la soupe, des tomates, du pudding, du riz. Tous des produits de base là, que tu peux garder, puis ils sont là en centaines et en centaines de copies. Donc, c'est quand même quelque chose de voir que ça a une certaine popularité. Aux États-Unis, je m'y serais attendu. Là, c'est quand même le genre de produit qui est prisé des mouvements survivalistes, entre autres des gens qui pensent que
mais
demain
ça,
matin.
Mais ça, c'est 3 ans, là. C'est 3 ans qu'une famille de 4.
Oui. Tes formats.
3 ans.
Un 2 semaines, 1 mois, 3 mois,
non, mais c'est
6 mois.
C'est juste, tu vis où? Mais toi, ça veut dire que là, t'es enfermé, plus de magasin pendant 3 ans?
Ouais, mais ça coûte 13,981 $ le format 3 ans, quand même. C'est onéreux.
Faut que tu t'achètes une toilette chimique avec un bon réservoir pour ton.
Mais c'est ça, ton bunker après ça. Ça te prend un bon bunker pour surveiller tes produits.
Ouais, parce que là, ton bunker, il finit qu'il sent fort, là.
Ouais.
T'as plus le goût de manger ta chaudière.
Non, exactement. Mais c'est quand même fou. Puis tu vois, au-delà du rigolo de ces produits. Mais ça a une certaine popularité.
Il y a des gens qui achètent ça.
Oui, puis il y a plus de gens qu'on y pense. C'est vraiment un best-seller du Costco, un bon vendeur. Puis on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont inquiets par le contexte actuel, assez pour vouloir se constituer des réserves.
Mais mettons, t'achètes ça. Puis mettons, au bout de 4 ans, là, je veux dire, il n'y a rien arrivé. Tout va bien, la vie, la rue est là, l'épicerie, tu prends ton char.
Tu peux pas une coupe de pâte Alfredo.
Ben c'est ça que j'allais dire. C'est sûr quelqu'un comme moi qui est gratteux et qui a eu ça, avoir de quoi, qui traîne dans le garde-manger et qui n'a pas été mangé, ou qui traîne dans le fond du congélateur et qui n'a pas été mangé. Mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, chérie, ça vient de s'éteindre, là, on a acheté ça pour rien. Fait que pendant les 3 prochaines années, on mange les chaudières.
Ça peut devenir drabe.
Fait que tu manges les nomme-nous donc là, l'excellent.
Là. Alors, on pourrait se prendre des portions là, du gros à savoir la cassanade, des céréales musquerins, du riz espagnol, de la semoule au cheddar, des haricots au riz, des pâtes au beurre et aux herbes, du riz au lait crémeux, du radis.
Ça, t'en as 540 chacun, genre?
Ah ben là, ça, c'était le petit. Ça, c'est le petit format pour une couple de jours. Mais là, si tu veux le gros puis le vrai, là.
C'est 540 portions chaque, là.
Ben ouais, à peu près, c'est 432 des fois. Tu vois, le riz, 360. Le pudding, 560. 76 portions. Oh, ça, on est gâtés pas mal. Il est tout à vanille, par contre. Le pot au chocolat.
C'est dégueulasse.
C'est pas mal, moins le fun. Et, attention, du jus d'orange 576 aussi. Ça t'as ta vitamine C. T'attraperas pas le scorbut sitôt si demain matin, c'est la fin du monde, Mario.
Le monde.
C'est aujourd'hui que s'ouvrait officiellement le premier procès pénal d'un ex-président américain, Donald Trump, qui fait face à la justice pour le seul de ses procès, véritablement, là, qui a des chances d'avoir tout son cours d'ici les prochaines élections américaines. Parce que c'est pas le seul procès pénal dans lequel M. Trump va se trouver embourbé, mais c'est un des seuls qui a pas réussi à être retardé et repoussé par ses avocats. Et c'est celui qui l'oppose à cette vedette du X, Stormy Daniels, qui dit avoir eu une relation extra-conjugale avec lui il y a de ça plusieurs années. Et en 2016, juste avant les élections, on aurait donné de l'argent à Mme Daniels pour qu'elle se taise, du hush money, comme ils disent en anglais. Et c'est là-dessus que se joue ce procès-là, qui commençait aujourd'hui non seulement avec A, une présence de M. Trump au tribunal, mais B...
Mais là, on dit que la présence, là, le procès pourrait durer 5-6 semaines, puis il est tenu d'être là tout le temps.
Il est tenu d'être là tout le temps. Parce
ça
que
va pas tellement bien pour les tournées électorales.
Ben c'est ça, puis c'est ce qu'il dénonce aujourd'hui, Mario, en disant que c'est une attaque contre l'Amérique de ne pas le laisser aller faire sa campagne électorale contre le vilain Joe Biden. Évidemment, c'est
qui, lui, fait du 16 heures par jour sur le... Non.
Il fait du 16 heures,
sur
capable?
Le sentier de la campagne, je pense pas.
C'est beaucoup de campagne électorale. Ah,
finalement, personne ne fait campagne.
Finalement, peu de monde font campagne, Mario, mais non, il est tenu d'être là parce que son procès au civil, il faisait des apparitions une fois de temps en temps, mais ses avocats le représentaient la majorité du temps. Là, il doit être présent. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un des surnoms qu'il a donné à Joe Biden dans les dernières années qui est revenu lui mordre le postérieur, Mario.
C'est-à-dire?
Mais aujourd'hui, sur X, anciennement Twitter, un des disons là, des chants qui étaient trending là, dans les plus visionnés, les mots-clés qui revenaient le plus, c'était Sleepy Don.
Il n'a pas dormi au procès?
ce qui paraît, il était. Il gagnait des clous. Il était tanné.
Il a mal dormi. Nerveux hier soir.
Voilà. Donc, semblait-il qu'il cognait des clous, fermait les yeux, avait l'air de s'assoupir. Donc, Sleepy Don, c'est revenu aujourd'hui. Puis c'est un procès, mais qui va être sous haute sécurité. On se comprend. Il y a des manifestations, contre-manifestations proches du tribunal. Et là, aujourd'hui.
Mais là, ce qu'on cherche, c'est des jurés qui n'ont pas d'opinion préconçue sur M. Trump.
Y a-t-il quelqu'un à la maison qui a ça? Des opinions pas préconçues sur M. Trump qui pourrait nous aider? Honnêtement, ça doit être dans les recherches de jury les plus difficiles de l'histoire.
Mais ils disent que ça pourrait prendre 5, 6, 7, 8 jours. Parce que c'est 96 personnes par jour qui font venir. Là, ils les trient.
Et c'est demander à quelqu'un.
Rapidement, aujourd'hui, on avait éliminé une soixantaine, les deux tiers, parce qu'ils disaient, nous autres, Trump, soit on l'adore, soit on le déteste. Puis ça réglait le cas tout de suite. La cause de ces jurys-là n'était pas admissible. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.